L'émission sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans L'EM, l'émission quotidienne de Radio Évasion en direct à midi et rediffusée à 18h. Vous savez, le jeudi, c'est souvent agriculture, en tout cas une fois par mois avec notre partenaire, le réseau CIVAM du Finistère, réseau de la paysannerie et de la ruralité. Et aujourd'hui, on fête un anniversaire, 20 ans pour le CIVAM du Finistère. Je vous rappelle que ce réseau rassemble des paysannes et paysans qui défendent une ruralité vivante, solidaire, qui souhaitent voir fleurir et soutenir des fermes nombreuses, des fermes résilientes, autonomes et durables. Le réseau CIVAM, c'est un soutien technique, mais ce sont aussi des formations, des échanges de pratiques, des émissions de radio, des événements, des débats, comme ces débats qui ont été organisés donc à l'occasion des 20 ans. Ça a commencé en novembre. Il y a eu un premier débat en presqu'île de Crozon autour du thème « On ne fait rien seul, agir collectivement ». Ensuite, c'était Banalec et ce week-end, c'était à Saint-Cadou. Alors, bravo déjà et bon anniversaire.
Merci.
Avec nous, il y a Yann Paulet qui est maraîcher à Plomelin et Isor Solé qui est animatrice du CIVAM. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Alors le sujet donc, les sujets, parce qu'en fait, on va revenir sur les trois sujets que vous avez, on pourrait faire trois émissions en fait, hein, mais bon, on va en faire une en tout cas déjà. Trois débats très intéressants, donc la question déjà du commun en agriculture, je cite les trois, hein, la question de l'évolution de l'agriculture sur la base d'un livre dont, sur lequel on reviendra, et la question de l'accès des produits. Alors le commun en agriculture, le commun c'est un mot qui revient presque à la mode, ça veut dire quoi déjà un commun ?
Je vais tenter de commencer à répondre. Il me semble que pour moi, en tout cas quand on dit commun, mes cours sont loin, mais même quand on en parle entre paysans, il y avait dans certains territoires des prairies, des parcelles qu'on appelait communs parce qu'il n'y avait pas de propriétaire déclaré et on partageait ces terres ensemble.
Des forêts, je crois aussi.
Voilà, il y a ça existe encore en fait, des choses qu'on peut considérer comme communs. Mais là, nous, où on en parle aujourd'hui, c'est l'idée collective et c'est vrai que la terre qu'on travaille tous ou sur laquelle on vit, et même quand on passe en voiture à côté pour aller au travail, c'est quelque part quelque chose qui est commun, même si aujourd'hui il y a des propriétaires, il y a des locations, etc. Mais c'est du côté collectif, nous, qu'on entend aussi commun, c'est ensemble, en commun, on fait le même métier ou on gravite autour des mêmes choses, et finalement, ouais, c'est un peu le fil rouge du CIVAM, et les trois événements qu'on va détailler qui se sont passés, quelque part, on a toujours le lien collectif qui est rappelé à chaque fois.
Bah, le fait de, c'est le premier débat, hein, on ne fait rien seul, agir collectivement, ça pourrait être sur quoi concrètement ?
Quand on a fait notre événement, en fait, on a essayé aussi de montrer que ce commun, il pouvait être à différentes échelles, que ce soit à l'échelle d'une ferme, où on a parlé de ce qu'on appelle des groupements fonciers agricoles, des AMAP aussi pour la commercialisation.
Groupement foncier agricole, juste pour dire une donnée.
C'est l'achat de terres en commun, la mise en commun d'argent par des citoyens pour aider des paysans, des paysannes à s'installer et à acheter leur ferme.
Alors il y a par exemple l'association Terre de Liens qui fait ça, qui achète des terres et qui les loue en fait, c'est ça, aux paysannes et aux paysans.
Voilà.
Et les AMAP, c'est Association pour le maintien de l'agriculture paysanne, donc c'est les paniers, enfin là on s'engage en fait à acheter, c'est ça ?
C'est ça, en fait les citoyens se rassemblent et achètent, disons, leur panier à l'avance, et donc du coup ce qui permet aux paysans et aux paysannes d'avoir une trésorerie sur l'année assez garantie, quoi. Et en échange, tous les mois, ils distribuent toutes les semaines ou tous les mois, enfin ça dépend des AMAP, chacun s'organise comme il veut. Fournit des denrées aux consommateurs, quoi.
Donc ça, c'est à l'échelle de la ferme, le commun à l'échelle de la ferme, voilà. D'une exploitation,
Ouais. On voulait mettre en avant aussi, ils ont pas pu venir, mais on peut en parler, c'est l'occasion d'en parler, un groupement de paysans dans le Nord Finistère et le Trégor qui essaie de mettre un atelier de découpe commun, donc pour pouvoir découper leurs bêtes et les transformer et être autonome sur ces questions-là. Donc du coup, là, c'est à l'échelle, on va dire, de plusieurs fermes ensemble.
Toute espèce espèce animale ou
Là, ils sont, toute espèce animale. Ils sont partis sur des plutôt gros volumes, dans le sens où je ne crois pas qu'il y ait de personnes qui découpent du poulet dans le groupe, mais en tout cas, brebis, vaches.
Ah ouais, ça pourrait, de toute façon, ça pourrait évoluer éventuellement, quoi.
Oui, complètement.
Et ça existe, ça, déjà, des ateliers
non.
de découpe?
Ah, ouais. pas dans le Finistère.
Donc c'est le deuxième étage France. Après. Alors nous, on est en plus au Fou, on est sur un territoire où il y a un projet de rénovation de l'abattoir. Et là, c'est pareil, c'est un outil commun, typiquement, mais bon, c'est plus...
Complètement, voilà. Ouais. Et donc là, c'est vrai que là, c'est mis par... c'est des paysans qui souhaitent faire ça ensemble. Et la troisième expérience qu'on avait fait, c'est l'expérience de Biolay, où il y a un administrateur qui habite la commune de Rosnoen, qui est déjà venu à ce micro, Erwan Leroux.
Biolay.
Voilà, ouais. Biolay, qui est là, par contre, une coopérative à beaucoup plus grande échelle et qui rassemble beaucoup plus de fermes.
Ouais, c'est ce que j'allais dire. Les paysans ont l'habitude de travailler en commun. Enfin, il y a par exemple les Cumas où ils mettent du matériel en commun. Et puis, il y a eu ces fameuses coopératives agricoles, mais qui leur ont un peu échappé quand même, il faut le dire. C'est ça, comment faire pour qu'une coopérative reste quand même l'outil des paysannes et puis des productrices et producteurs?
C'est toujours un peu la même question, même si on reprend la métaphore pour l'outil internet, il y a toujours des bonnes choses, des bonnes idées à la base, et le fait est que la façon dont sont saisies le climat politique, enfin les différentes évolutions de la société font qu'au bout d'un moment il y a perte de main là-dessus, et les coopératives agricoles, moi je suis dans le légume, mais ça marche pour d'autres coopératives. Bah, aujourd'hui, on a des systèmes, enfin c'est connu, ça a été aussi en reportage, on a des systèmes où quelqu'un qui ne veut sortir de cette coopérative ou qui finalement commence à dénoncer certaines pratiques de ces coopératives, un adhérent, donc un agriculteur, et ben s'il veut partir de la coopérative numéro 1, la coopérative numéro 2 et X ne le prendront pas, parce qu'ils se sont entendus entre eux, ces coopératives, pour dire, bah lui il t'a posé problème à telle entreprise, bah, donc on va pas l'accepter dans les nôtres. Donc il y a quand même une drôle d'idée qui est, au départ, une coopérative veut bien dire qu'il y a une mise en commun, enfin on se rassemble, et finalement on devient des entreprises d'exclusion. Et il y a aussi en terme d'échelle là-dedans. Coopérative, ça devient énorme.
Mais c'est ça, ce que j'allais dire.
Ouais, ouais. C'est ça, on est dans des boîtes, c'est fou ces entreprises-là, ça, c'est énorme les productions qu'ils font. On parle en pourcentage de parts de marché, même au niveau national. En Bretagne, on est très bon en tomates, c'est assez marrant d'ailleurs vu le climat, mais on est très très bon en tomates au niveau national, et en porc et en lait aussi, et ouais, voilà, c'est des monstres, hein, c'est des mastodontes. Donc
ouais, donc elles échappent en fait aux productrices et producteurs parce que on met des administrateurs professionnels, des gestionnaires professionnels qui ont rien à voir avec l'agriculture.
Bah,
en fait,
clairement, c'est assez bien montré dans le film sur le lait là, qui est sorti il y a pas longtemps par un douarneniste là, qui a fait, je me rappelle, la guerre, ça s'appelle comment déjà,
Le dernier des laitiers.
Voilà, Le dernier des laitiers, merci Isor. Le dernier des laitiers parle de ça. On voit quelqu'un qui est interviewé qui est à une grande coopérative laitière, et on le voit parler, en l'occurrence c'est dans l'usine de transformation de lait là, qui est Atsi Nutra, là, qui est proche de Carhaix, et cette personne-là, on le voit après dans son exploitation, mais quand on comprend que lui en fait a des salariés et qu'il n'est plus vraiment producteur tous les jours dans sa ferme, il a le temps d'aller représenter les intérêts de son entreprise dans différentes commissions, dans différentes assemblées, et finalement on est bien loin du travailleur de la terre, on est plutôt quelqu'un qui fait du lobbying. Donc ça devient oui, c'est plus un paysan qui parle c'est quelqu'un qui parle pour l'entreprise, quoi.
Alors ça, c'était le sujet sur les communs. Enfin, il y a autre chose à ajouter. Enfin, si on peut en faire pendant encore des années.
On peut rajouter la toute petite chose qui est très bonne dans au CIVAM, enfin, qui est très intéressante à avoir au niveau de notre identité, c'est les magasins de producteurs. Ça s'est lancé dans les années 70-80 et ça continue encore, malgré que ça nous pose toujours question aussi, on en parlera d'accès à l'alimentation, mais une mise en commun des moyens de vente et puis pour
donc
se
en
rassembler.
Fait, un magasin de producteurs, juste pour rappeler aux auditrices, auditeurs, c'est les paysans eux-mêmes qui vendent leurs produits à tour de rôle, quoi. Enfin, ils s'organisent.
C'est assez compliqué, ouais. Selon les territoires, ouais. Et ça pose des défis, c'est assez intéressant. C'est pas un magasin où plein de productions françaises vont se rassembler et se vendre avec des salariés dédiés et tout ça. C'est bien, comme vous l'avez bien noté, c'est des producteurs ensemble qui, avec une fiche, se disent, bah, moi c'est le mardi, moi c'est le mercredi, etc., qui se rassemblent pour vendre leur production.
Bah, ça serait un peu comme de la vente à la ferme, sauf que c'est pas à la ferme, en fait.
C'est ça.
Ouais. Très bien. Et puis après, bon, c'est vrai que le CIVAM fait l'échange de pratiques tout le temps. Enfin, vous, le commun, vous connaissez. Hein,
C'est ça. Ouais, peut-être ce qu'on peut dire, c'est que dans le commun, enfin, il y a, ça permet aussi de peser dans les orientations, de se faire confiance. Et c'est des choses qui sont assez définies. Et ce qu'on voit aussi dans tout ce qu'on accompagne, c'est que le collectif, il avance ensemble pour une finalité. Et cette finalité, c'est important de la définir et de savoir où le collectif veut aller, de pouvoir s'imposer ses limites aussi dès le départ à la création, de bien définir ce qu'on fait ensemble. Et ce qui permet aussi d'éviter, d'éviter aussi des dérives de ce collectif-là, quand après on est la tête dedans et que...
Ouais. Vous redéfinissez régulièrement vos valeurs, enfin vos objectifs, c'est ça, enfin...
C'est ça, ouais. De savoir où on va ensemble, d'être au clair pour que chaque individu puisse porter la parole du collectif et savoir comment il se positionne aussi par rapport à ce collectif, quoi.
Vous arrivez à être d'accord, d'ailleurs,
Non, le but, justement, c'est de... Si on est d'accord trop longtemps, c'est que ça va pas. c'est vrai. Le collectif, ça se cultive et comme toute culture, c'est compliqué. Et justement, encore avec les anciens du CIVAM, comme on les appelle, qui ont fondé le CIVAM dans les années, enfin depuis 21 ans, parce que c'est pas 20 ans, c'est un peu 21, c'est un petite année de plus, mais vingtaine d'années, ils sont déjà pas toujours d'accord entre eux sur certains points. Et nous-mêmes, on vient tester un peu nos désaccords et c'est comme ça qu'on cultive ce collectif, quoi.
C'est ça. En plus, ce qui est intéressant, je rappelle. C'est que le CIVAM regroupe à la fois de l'agriculture bio et pas bio. Enfin,
c'est ça. C'est juste déjà des producteurs de nourriture, des cultivateurs de toutes sortes, des éleveurs. On a ce débat aussi en interne. Moi-même, je sais qu'on produit en bio avec ma femme nos légumes, mais j'aime à me présenter comme producteur de légumes parce que c'est pas ça qui me définit vraiment. Le bio, je pense pas que je resterai avec le cahier des charges bio toute ma vie. C'est sûr que je pense même que non, donc voilà.
Et ça nous amène au deuxième sujet sur lequel vous avez réfléchi, c'est-à-dire l'évolution de l'agriculture. Alors vaste question, c'est pareil, on pourrait faire 10 000 émissions. Alors vous êtes basé sur un bouquin qui s'appelle La Terre aux Machines, vous pouvez nous en dire un mot peut-être
Reprendre la Terre aux Machines.
Reprendre la Terre aux Machines, pardon.
À part dire que c'est un bouquin qui a pas, vous pouvez chercher sur les. Je sais pas si on peut s'en produire, s'en procurer encore parce qu'il est en, il est écoulé pour l'instant et il va être en réédition, je pense. Mais on peut chercher sur les quatrièmes de couverture, etc. Il n'y a pas de nom d'auteur nominatif puis c'est un collectif qui l'a écrit et ce collectif, il y a une personne du CIVAM qui en fait partie, mais il y a en fait d'autres structures comme l'Atelier Paysan par exemple, une coopérative d'autoconstruction et de réflexion sur la machine en agriculture et d'autres personnes, je crois qu'ils l'ont écrit à six mains ce bouquin-là. Donc c'est déjà encore une manière de produire un objet en collectif et c'était une aventure rien que elle toute seule, quoi.
Mais quand même, alors si je comprends le titre, je me dis alors c'est quoi ? C'est un titre qui est anti-progrès, enfin parce que c'est vrai que l'agriculture, bon alors là, elle a beaucoup évolué ces 50 dernières années. Je pense qu'il y a quand même eu du bon aussi, enfin dans les évolutions. Je pense que le machinisme n'est pas forcément une mauvaise chose.
Non ? Bien sûr, non, c'est pas du tout l'objet. Je pense que c'est déjà de faire une rétrospective sur l'histoire et de faire cette rétrospective et cette grande fresque à force de chiffres et de se rendre compte que finalement la machine au début quand elle est arrivée, elle a beaucoup aider les paysans à travailler, à échanger, à se construire, à s'échanger des machines, à se donner des coups de main. Mais aujourd'hui, force est de constater que ces machines sont devenues sont sorties carrément de la main des paysans et celui qui a réussi à réparer un tracteur ou une machine aujourd'hui qui soit utilisée pour biner le blé n'importe quelle machine aujourd'hui est devenue tellement complexe que les paysans, comme beaucoup de choses autour d'eux, ne peuvent plus gérer leurs outils. Donc, que ça soit entre collègues ou tout seul, il y a vraiment une perte de main sur la machine.
Et de solidarité, en fait.
Voilà,
du coup,
tout simplement.
C'est ça, ouais.
La seule solidarité qui reste aujourd'hui, et on en parle souvent, c'est l'ensilage de maïs qui est encore des chantiers où les paysans se retrouvent dans les campagnes, mais ça, c'est guère que le seul moment de l'année où il y a un rassemblement d'agriculteurs entre eux, quoi.
Ouais. Et donc, sinon, les évolutions de l'agriculture, il y aurait énormément à dire, mais qu'est-ce qu'on peut dire ? Déjà, c'est le nombre de paysans qui se réduit drastiquement.
Bah oui, là on vient tout juste d'avoir les chiffres du recensement agricole qui montrent un petit peu l'évolution de l'agriculture entre 2010 et 2020. Et c'est vrai qu'en Finistère, donc il y a 20% des fermes qui ont disparu en 10 ans, ce qui équivaut à peu près à 1200 fermes disparues, quoi.
Et pas forcément la surface cultivée.
Au niveau de la Bretagne, en tout cas, la Bretagne conserve sa surface agricole.
Qui veut dire qu'il y a moins de monde pour un plus grand terrain.
Complètement, ouais. Mm. C'est exactement ça. Et donc, du coup, l'interrogation qui rejoint ce livre, c'est comment on fait pour produire, en fait, assez d'agriculture, d'alimentation, en fait, pour nourrir ne serait-ce que la population française sans machines et sans pesticides, avec une baisse des exploitants agricoles, quoi.
Bah, c'est là qu'on dit, bah oui, après tout, c'est peut-être les drones qui vont nous faire... qui vont élever les animaux et cultiver les champs,
finalement. C'est ça qui fait peur, et c'est ça qui est déjà dans les tuyaux un petit peu de ceux qui gouvernent en Europe, aussi les questions agricoles et nationales, et toujours, je ne sais pas si vous avez remarqué, toujours la même chose qu'on peut constater, les drones, etc., c'est pas les agriculteurs qui vont pouvoir les réparer, c'est pas les agriculteurs qui sauront vraiment comment ça fonctionne, c'est toujours les mêmes choses, on nous vend des solutions toutes faites qui vont être gérées par des entreprises qui ont leur profit à faire, et clairement c'est encore une impasse, et on y fonce dedans. Dans cette impasse, on essaye de faire entrer un éléphant dans un entonnoir. C'est complètement, pour nous, ça, c'est un peu stupide. On prend le problème du mauvais côté. Il faudrait avoir beaucoup plus de gens à travailler la terre et à produire pour que on réussisse à produire une alimentation de qualité pour tout le monde. C'est clair, c'est le constat qu'il faut faire avec force, quoi.
Mais avoir beaucoup plus de gens, ça veut dire qu'il faut, que déjà, ce sont des métiers difficiles. Enfin, on le sait, hein, finalement, les agriculteurs, même ceux du CIVAM, ils restent pas si longtemps que ça. Au bout d'un moment, ils sont un peu usés. Enfin, vous êtes en maraîchage, Yann, vous pouvez témoigner sans doute que c'est pas facile tous les jours.
Oui, c'est pas facile tous les jours, mais déjà, on est deux sur la ferme et on fait partie d'un réseau. Et j'entends souvent cette remarque, moi, de gens qui me disent, dis donc, vous êtes courageux, c'est bien, ça doit être dur. Mais en fait, quand on est en collectif, la difficulté est toute relative. Quand on est en collectif, on a des gens qui peuvent faire des remarques, on a des façons de voir son métier. Quand on s'échange en des expériences entre fermes, on avance 10 fois plus vite. Et aujourd'hui, je cache pas que Internet aussi est utile pour des visites de fermes à l'autre bout de la France ou à l'autre bout de l'Europe ou du monde, qui donne des idées et qui permet de s'échanger des astuces et des réflexions qui permettent de revoir notre métier.
Ouais, revoir. Et ça, c'est vrai que les techniques vont sans doute évoluer, les techniques alors agronomiques cette fois, parce qu'on croit que la bio, c'est en fait 3 bouts de ficelle et 2 cartons, mais en fait, finalement, au contraire, ça demande une connaissance de la biologie, notamment supérieure, c'est ça. Enfin, vous êtes ingénieur agronome à la base.
Oui, en fait, je m'amuse un peu parce qu'on en parlait de ça il y a pas longtemps. Je suis ingénieur agronome, mais en fait, je me rends compte que ça m'a servi à me sentir légitime, parce que quelque part, en études d'agronomie, du moment quand je les ai faites, on m'a pas appris à faire pousser des légumes, on m'a appris à calculer la ration d'une vache Primolstein et à voilà. Donc c'est pas des choses, le légume n'était pas, même pas dans nos programmes. On nous a appris un peu comment se structurer le sol, mais tout ça est dans les bouquins et ça m'aide pas concrètement tous les jours à faire mon travail. Ça me donne une base, on va dire, de connaissances qui est, ma foi, bien agréable, mais en fait c'est surtout la légitimité pour faire mon métier. Ça m'a donné cette légitimité.
Bah, peut-être que les formations vont évoluer, c'est-à-dire que... ou évoluent déjà, les formations agricoles...
Oui, c'est ça, c'est technique. Le bio, on dit que c'est technique, le bio ou pas le bio d'ailleurs, même produire sans pesticides sur une surface donnée, c'est déjà très technique, et quand on va là-dedans, tout est technique, mais en fait, c'est... La technicité reste abordable si on a une surface raisonnable. On ne peut pas penser et s'adapter au contexte quand on a 100 hectares. Là, on en parle souvent. Quand on a 100 hectares de culture, on ne peut pas le faire très difficilement le faire sans gros investissements, que ce soit en pesticides, en produits et en machinerie. Ça devient très difficile. Produire la nourriture qu'on fait en France en quantité et en qualité relative pour nourrir, comme on dit, la planète, ou déjà à nourrir la France, déjà on le fait mal, mais en plus on le fait grâce aux machines et aux pesticides. On peut pas, c'est complètement improbable de dire à tout le monde arrêtons les pesticides, ça pourra pas marcher comme ça.
Ah ouais.
La solution...
Ouais.
La solution, c'est l'installation massive. La solution, c'est un nombre de paysans énorme. On est 400 000. Ça va être. On pourrait même être 300 000 avec des robots et des pesticides. Ça marcherait pas mal. Même 200 000. Ça marcherait pareil qu'aujourd'hui.
Toutes les pollutions et les problèmes climatiques qu'on a actuellement.
Ouais. Il faudrait des millions de. On s'est amusé à calculer, notamment dans le bouquin, là, Reprendre la Terre aux Machines. Il y a ce petit calcul de dire que si on veut vraiment bien produire, accès à une alimentation un peu plus saine et que les paysans puissent se payer et vivre bien de leur boulot.
L'autre volet quand même très important, c'est qu'il faut pouvoir vivre de son travail.
C'est ça. Et si on veut ça, plus une alimentation de qualité pour tous, c'est au moins 6 millions de personnes qui devraient travailler la terre, voire 10 millions en fait.
Mais alors comment faire pour les convaincre?
Je pense qu'il y a plusieurs choses. Il n'y a pas que les convaincre en fait. Je pense que c'est juste une histoire de... C'est aussi une histoire administrative, une histoire d'organisation de filières, une histoire de... Parce que les vocations, elles sont là aussi. Mais quand on voit les schémas d'orientation du foncier, l'accès à la terre, etc., c'est pas toujours fait pour faciliter que le plus grand nombre puisse s'installer.
Sans oublier les lois du marché qui vous échappent, c'est-à-dire que là, en ce moment, par exemple, il n'y a pas assez de demandes en bio, il y a surproduction en bio, ce qui n'était pas vraiment arrivé jusqu'à présent, c'est ça ?
Oui, dans le lait, normalement, notamment au niveau du lait.
Ouais, on n'a pas, enfin, nous en tout cas, on n'a pas travaillé sur les explications, mais déjà quand on voit que il y a, je crois, plus de 6% de la population finistérienne qui va à l'aide alimentaire depuis le début du Covid, les prix de l'alimentation dans un budget, ils baissent de plus en plus, les prix des loyers, ils augmentent, et donc du coup, il faut aussi pouvoir acheter une alimentation, l'alimentation qu'on veut, quoi, avoir le choix de son alimentation. C'est valable que pour une petite partie de la population.
Oui, c'est ça, parce que on a toujours ce cliché qui n'en est pas seulement un, comme quoi le bio, l'alimentation de qualité, c'est cher, c'est pas accessible à tout le monde. Donc ça, c'était le troisième thème que vous avez discuté à l'occasion des 20 ans du CIVAM. Qu'est-ce que vous vous êtes dit là-dessus ?
Oh là là, le chantier est gigantesque parce qu'en fait, on a eu un échange des premiers donc du CIVAM, plusieurs personnes qui, dès les fin des années 70, ont tenté, à l'occasion, qu'ils ont pu essayer de monter un marché dans le quartier de Quéréderne à Brest, qu'on qualifierait de quartier populaire, n'est-ce pas, selon les termes consacrés. Et il y a eu l'idée de se dire, on y va, on va produire et puis on va donner accès aux gens à de la bonne nourriture. Et finalement, en fait, c'était une drôle de façon de faire parce qu'ils se sont vite rendus compte que les habitants passaient devant les stands des paysans et allaient, je ne sais plus quelle marque c'était de grande surface, mais voilà, allaient partir à la grande surface. Et de toute façon, comment leur en vouloir, puisque de toute manière, la manière dont c'était fait, c'était quelque chose qui ne marchait pas, puisque finalement, les personnes les plus aisées de Brest sont vite venues au quartier de Quéréderne pour acheter de la production paysanne. Et au final, la volonté de donner accès à ceux qui en avaient le plus besoin n'était pas remplie. Donc nous, on est encore en train de réfléchir à ça, parce qu'il y a un programme accessible qui a été mis en place avec le CIVAM et une association qui s'appelle le Cabas des Champs à Brest.
On en avait déjà parlé,
et c'est toujours en cours. Il y a toujours des réflexions parce que c'est vrai que d'un côté, on a des producteurs qui ont besoin d'un certain prix pour vivre. Et de l'autre côté, on a aussi des gens qui ont besoin d'un certain prix pour pouvoir l'acheter. Donc, c'est des vraies questions. Et en fait, plus on creuse cette question, plus on se rend compte que la solution n'est pas à porter tout sur les épaules des producteurs qui doivent essayer de se dire moi je vais rabaisser mes prix parce qu'au bout d'un moment ce sera plus rentable, et la solution non plus n'est pas de taper sur les personnes qui ont peu de ressources en disant je caricature un peu, mais on entend souvent ça, s'ils n'avaient pas acheté un smartphone ou écran plat, ils auraient de l'argent pour manger. C'est beaucoup plus compliqué que ça, et le week-end qu'on vient de passer, donc le week-end dernier, était autour d'un bouquin, Où va l'argent des pauvres, de Denis Colombi, où on essayait de se l'approprier et de comprendre, de s'écharper, de se casser un petit peu la tête pour essayer de voir que finalement, qu'est-ce qu'un pauvre ?
Et
c'était très très intéressant. Et en fait, parmi nous, producteurs, on pourrait même considérer que certains d'entre nous sont pauvres. Donc,
en fait, il y a pas mal de producteurs, je crois, qui troquent entre eux des produits. C'est ça, ça permet d'échapper à l'aide alimentaire, même quand on ne gagne pas beaucoup d'argent, c'est ça ? ça ?
C'est ça, notamment, il y a une manière de faire, mais ça fait un peu peur, en fait, de se dire que producteurs de nourriture...
Oui, mais si le revenu agricole moyen, c'est 350 euros, on ne peut pas manger que sa production si on ne produit que du lait ou que du cochon.
Ouais, suivant son système, on n'est pas forcément aussi en capacité de troquer énormément. C'est ça,
tout à fait. Et donc le livre.
Le livre était très très intéressant. On a fait un arpentage. En fait, c'est une technique qui consiste à prendre le dit livre, un exemplaire, le déchirer en plusieurs volets, chacun à un nombre de pages précis. Et on était une vingtaine et on avait chacun une vingtaine de pages. Et le but est de pendant plusieurs heures s'approprier, enfin lire cette partie qu'on a chacun personnellement et réussir à la retranscrire à travers une grille de questions, de retranscrire nos impressions sur ce bouquin-là. Et selon les passages et selon les personnes, ça donne quelque chose d'assez intéressant. Et on sort de là avec l'impression d'avoir lu le livre ou d'avoir au moins compris, extrait son essence à plusieurs. Et ça nous donne du grain à moudre, quoi.
Et il proposait des solutions, enfin des idées en tout cas, pour rendre l'alimentation de qualité accessible à tout le monde.
Non, il n'y avait pas vraiment de solution, mais je pense que là, on ne cherchait pas du tout les solutions. On cherchait aussi à comprendre un système et s'enlever de certains préjugés aussi, de comprendre aussi comment cette question de la pauvreté fait écho dans les vies quotidiennes des uns et des autres. Et puis, ce bouquin a été complété aussi par l'intervention de Bénédicte Bonzi, qui est anthropologue et qui a travaillé sur la question des violences alimentaires, et elle insiste bien sur ce mot-là. C'est la manière dont un bénéficiaire de l'aide alimentaire va recevoir l'aide qui lui est proposée, et donc du coup qui est une certaine violence déjà dans la démarche d'aller à l'aide alimentaire, de se mettre à nu sur ses revenus, sur sa manière de consommer justement, et d'être potentiellement jugé si la personne a acheté les dernières baskets pour avoir socialement aussi pouvoir suivre les autres socialement. Et donc du coup cette violence dans le non-choix en fait des produits qui leur sont proposés, et donc du coup de l'incapacité de pouvoir choisir ce qu'on va manger en fait.
Double violence en fait. Elle nous a parlé donc des bénéficiaires de l'aide alimentaire, parce qu'elle c'est sa thèse qui s'appelle Fin de droit, Fin FIM, qu'elle a travaillé avec les Restos du Cœur dans le 93 à Paris lors des maraudes et puis des distributions alimentaires. Et elle a rencontré aussi les bénévoles, et il y a une violence aussi pour les bénévoles qui se retrouvent à contenir la violence d'une situation d'urgence qui eux aussi, elle nous a montré une image de dire tout simplement il y a différents paquets de riz, mettons, et le bénévole, selon les gens qu'il a devant lui, doit donner les paquets de riz, mais sauf qu'il y a différentes qualités dans ces paquets de riz. Et comment, à la place du bénévole, on fait pour dire lui je lui donne un bon paquet de riz et lui un paquet de riz de bas de gamme. Il y a une violence énorme aussi du côté de la distribution.
Bon, mais on refera une émission encore là-dessus. Et puis on va renvoyer en attendant les gens sur le site internet du CIVAM, où ils verront notamment des résumés de ces rencontres et de ces échanges. Le CIVAM du Finistère, qu'on retrouvera le 17 mars. Merci, à bientôt.
Merci.
Dans un instant, c'est la deuxième partie de l'EM avec Marie Cultive et le fleurissement des murs. Et puis.